Alors je vais vous lire dans la Bible un récit de miracle fait par Jésus. Mais un tout petit miracle, peut-être le plus petit jamais raconté dans la Bible. Jésus guérit la belle-mère de l'apôtre Pierre de la grippe. Alors je vais vous le lire car il faut se méfier, selon ce que nous dit l'Évangile, des petites choses qui sont souvent beaucoup plus importantes que ce que l'on pourrait croire à première vue. Alors c'est dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, c'est d'ailleurs donc vraiment des premiers gestes que fait Jésus selon cet Évangile. Marc 1 à partir du verset 28. La renommée de Jésus se répandit dans toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, car elle avait de la fièvre. Aussitôt, ils parlèrent d'elle à Jésus. Il s'approcha, il la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on amena à Jésus toutes sortes de malades et de personnes à problème. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier seul. Simon et ceux qui étaient avec lui se dépêchèrent de le rechercher et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages des environs, afin que j'y prêche aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti ». Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et guérissant les malades. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 92 dans le psautier français. Un psaume qui est, selon la tradition du temps de Jésus, un psaume qu'auraient chanté Adam et Ève dans le paradis quand ils ont appris que Dieu pardonnait à leur fils Caïn qui était meurtrier et qu'il ne le tuait pas. Donc c'est un psaume de louange qui nous encourage à nous tourner vers Dieu avec confiance. Les deux premières strophes du psaume 92, « Oh, que c'est joie, que c'est chose belle de te louer Seigneur !» Ô notre Dieu, tu nous offres ton esprit pour que nous ne croyions pas seulement que tu es vivant, mais que nous sentions vraiment ta présence vivifiante et que nous soyons aujourd'hui engendrés, que nous soyons nourris, élevés, guéris et même ressuscités. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces, qu'espérer quand nous doutons de tout, et qu'il est encore possible pour nous d'aimer, d'avancer. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions être nous-mêmes, à notre mesure, une source de vie par nos paroles et par nos actes. Seigneur de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans l'écoute de ta parole. Jésus guérit donc la fièvre de la belle-mère de Pierre. Cela peut sembler une toute petite nouvelle au passage, une toute petite nouvelle de rien du tout, mais l'Évangile nous apprend, si vous voulez, à respecter les petits, alors les petits dans l'humanité, les petits dans le monde, mais aussi les petits signes qui peuvent être placés sur notre route pour y reconnaître quelque chose qui vient de Dieu. Et puis, imaginez ceux qui ont écrit un évangile. Ils voulaient condenser en quelques pages l'essentiel de la vie de Jésus-Christ, de cet homme qui avait changé leur vie. Et puis, vous savez, à l'époque, le papier n'existait pas, car c'est les Chinois qui l'ont inventé, et ce n'était pas encore connu dans ces régions-là. Et donc, il y avait peu de parchemins, ça coûtait cher, ils n'avaient pas tellement, si vous voulez, de place pour écrire l'essentiel. Et donc, il leur a semblé que cette petite histoire faisait partie de cet essentiel qu'est l'Évangile et qu'il devait raconter cette histoire pour que l'Évangile soit annoncé un peu partout et même de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et donc cette petite histoire, il y a quelque chose qui est indispensable pour que nous saisissions ce que Dieu nous propose pour nous faire vivre et pour être heureux. Alors la première chose, je crois, que nous apporte ce petit épisode, c'est de voir Jésus vivre, tout simplement, et ça peut nous donner des idées pour vivre un peu mieux nous-mêmes. On voit d'abord Jésus aller à la synagogue, comme nous ce matin, il se dérange de chez lui pour aller lire la Bible avec les autres et pour rendre un culte à Dieu. Alors on le voit dans la suite de l'histoire, il sait aussi prendre un peu de recul pour aller prier tout seul cette fois-là dans la nature quelque part. Mais quand même, il va à la synagogue et c'est déjà un geste de fraternité. Il va avec les autres pour rechercher Dieu, pour entendre la Bible, pour la lire et pour prier Dieu comme nous le faisons ce matin. Alors Jésus va à la synagogue, il prie aussi tout seul, mais il ne reste pas nuit et jour à la synagogue ou à prier Dieu. On le voit ici sortir de la synagogue et rendre visite à des amis, et c'est bien. L'idéal n'est pas d'être sans arrêt en prière ou sans arrêt en train de lire la Bible, ce serait trop. C'est à chacun de trouver le juste dosage, des temps où l'on nourrit notre cheminement à Dieu, où l'on nourrit notre réflexion par un temps de prière, un temps de lecture de la Bible, un temps de culte, avant de retourner à nos occupations avec une force et avec des idées nouvelles. C'est ce que fait Jésus. Et donc, il sort de la synagogue pour aller voir des amis. Et on voit que pour Jésus, pour Jean, pour Jacques, pour André, pour Simon, eh bien, l'amitié et la famille sont des choses qui comptent pour eux. Ses frères, Jean et Jacques étaient frères, Simon et André étaient frères, eh bien, ils sont unis, ils font des choses ensemble, ils vont voir leurs amis, et puis ils accueillent la grand-mère qui est malade. Et tous ensemble, eh bien, ils prennent un temps de repos, ils mangent, et puis ils font des projets ensemble, projet d'aller aider les gens, projet d'aller annoncer l'Évangile un peu ailleurs. Et tout cela, eh bien, c'est bien. La vie est comme ça. Jésus aurait pu entrer dans la maison et puis il aurait pu s'occuper de ses affaires sans s'occuper de la grippe de cette dame. Après tout, ce n'est pas quelque chose de si grave que ça. Et Jésus a le monde à sauver, si vous voulez. Il a l'Évangile à révéler au monde. Et là aussi, il n'a pas beaucoup de temps, si vous voulez, pour annoncer l'Évangile, pour vraiment dire au monde ce qui est l'essentiel qui vient de Dieu. Cet essentiel qui a tellement bouleversé le monde que 2000 ans après, un peu partout dans le monde, eh bien, des milliards de gens se réunissent pour encore méditer là-dessus. Et donc Jésus était pressé, si vous voulez, mais pourtant, il prend le temps de s'occuper de cette dame qui a la fièvre. Jésus ne guérit pas, finalement, si vous voulez, cette femme simplement pour rien, mais je crois que c'est un geste, si vous voulez. Jésus s'intéresse aux personnes qu'il croise et qui souffrent, et quand il peut faire quelque chose, il le fait. Et donc c'est comme ça qu'en passant, finalement, il guérit la belle-mère de Pierre qui a la grippe. Alors je crois que la dernière chose, c'est que dans cette histoire, on voit que Jésus se laisse ensuite servir par cette femme qu'il a pu aider en lui guérissant sa grippe. Et je crois que c'est une très bonne idée. Et c'est souvent, c'est vrai, une joie de pouvoir aider quelqu'un quand on peut le faire, même si on n'a pas souvent de remerciements finalement pour les bons gestes que l'on fait, mais on est content d'avoir quand même d'avoir fait un geste. Quand on a pu aider quelqu'un, on est assez content de l'avoir fait. Mais il est au moins aussi utile de se laisser aider par les autres. Car cela finalement leur laisse une place, cela les aide à exprimer leurs valeurs, et donc je crois que c'est bien d'aider les autres et de se laisser aider par les autres. Et c'est ce que nous propose Jésus dans le passage de l'évangile de Jean que je vous ai lu tout à l'heure, quand Jésus ne nous dit pas « aimez les autres », mais il nous dit « aimez-vous les uns les autres », c'est-à-dire on peut aimer les autres, les servir, quand il y a un coup de main à donner, c'est très bien, c'est une joie. Et c'est bien aussi de se laisser aider, de se laisser servir, de se laisser apporter par les autres, car la vie est ainsi faite et c'est comme ça que la vie est belle. Donc finalement, tout cela, l'aide donnée et l'aide reçue, se fait très naturellement dans cette histoire. Jésus ne guérit pas la belle-mère de Pierre pour qu'elle puisse lui faire la vaisselle. Et ce n'est pas parce qu'il l'a guérie qu'elle se met à les servir, les aider, les recevoir. C'est simplement, dans cette histoire, chacun semble trouver naturel de vivre ainsi en faisant ce qu'il peut, quand l'occasion se présente, eh bien pour donner un coup de main. Et c'est cela, le geste gratuit, le geste volontaire, naturel, qui rend la vie particulièrement belle. Dans cette façon de vivre de Jésus, il y a ainsi un équilibre entre la recherche de Dieu et la rencontre avec les autres, un équilibre entre le service donné et le service reçu, et tout cela est très bien. Mais on peut aller plus loin, je crois, dans la lecture de ce texte en le lisant d'une deuxième façon, d'une façon un peu symbolique. Car les miracles de Jésus sont souvent appelés dans les évangiles des signes, Et ils sont donc considérés comme des gestes à interpréter pour mieux connaître le salut que Dieu nous donne et ce que Dieu peut nous apporter en Jésus-Christ. Alors c'est très facile car dans ce texte, tel qu'il est rédigé par les premiers chrétiens, les mots employés sont ici des mots très importants en théologie. Quand le Christ s'avance vers quelqu'un, eh bien, cela évoque la grâce de Dieu. Il ne nous regarde pas d'en haut, si vous voulez, du haut de son trône très élevé, mais comme nous sommes importants à ses yeux, c'est ce que l'on voit particulièrement bien en Christ, Dieu se déplace pour nous rendre visite, à nous personnellement, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous donner la vie, pour nous ressusciter. Voilà, quand le Christ s'avance vers quelqu'un, il y a là une théologie qui nous est proposée. Et cette théologie, elle est encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire que même si Jésus n'est pas là pour nous guérir de notre grippe, nous pouvons nous rappeler que Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui s'avance pour nous tendre la main. Quand le Christ entre dans une maison, cela évoque la présence de Dieu dans notre existence et en nous. Dieu n'est pas simplement une réalité extérieure, même proche. Il est une réalité vivante qui entre en nous, qui vient dans notre existence pour nous transformer, pour nous faire avancer, pour nous rendre plus vivants. Et on peut le voir dans ce récit, mais on peut le voir aussi dans chaque page des évangiles, ce qu'apporte cette présence active de Dieu dans notre existence. Et quand le Christ relève quelqu'un, comme on le voit dans cette histoire, il lève la femme en la prenant par la main, cela peut sembler pas grand-chose finalement. Elle était un peu faible, il la prend par la main, il la tire pour qu'elle puisse sortir de son lit. Mais c'est un peu plus que cela, si vous voulez, car dans le grec des évangiles, eh bien c'est le même mot qui est tantôt traduit par « se lever » et tantôt traduit par « ressusciter ». Et donc, quand on nous dit que Jésus la lève, on aurait aussi bien pu marquer dans le texte « Jésus la ressuscite ». Et cela veut dire, oui, que cette résurrection dont on parle, c'est-à-dire ce passage à une simple vie temporaire qui dure quelques dizaines d'années en ce monde, dans le meilleur des cas, eh bien, par la résurrection, ce quelque chose que nous donne Dieu, on reçoit une dimension d'éternité, une vie qui est plus forte que la mort, plus forte que ce côté fragile de notre existence. Oui, chaque fois que Christ relève quelqu'un, on peut y voir un acte de Dieu, une promesse de Dieu, une proposition de Dieu pour nous rendre vivants d'une vie plus forte que la mort. Et puis la fièvre. Les gens s'imaginaient à l'époque que c'était une conséquence de nos fautes d'avoir la fièvre. Alors quand Jésus guérit la fièvre de cette dame, c'est mieux encore que le pardon, si vous voulez. C'est mieux encore que simplement dire « bon, ben, tu as fait des fautes, Dieu ne te rejette pas pour autant ». Mais c'est comme si en plus Dieu guérissait les conséquences malheureuses de nos fautes. Car en réalité, la vie est bien comme cela. Si vous voulez, quand on fait des fautes dans l'existence, on peut savoir que ce n'est pas que Dieu soit fâché contre nous, bien sûr, et c'est déjà une grande nouvelle, mais malheureusement, cela n'empêche. Quand on fait des fautes, c'est-à-dire des choses qui sont contraires à ce que nous propose Dieu dans les évangiles en particulier, Dieu n'est pas fâché, mais cela fait du mal autour de nous, c'est-à-dire que nous faisons souffrir des personnes autour de nous, nous faisons peut-être souffrir la nature aussi, nous nous faisons souffrir, nous nous abîmons quand nous faisons n'importe quoi. Eh bien, en Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui vient guérir finalement cette maladie qui est due à nos fautes, à nos mauvaises façons de vivre, ces maladies que nous avons finalement causées par nos erreurs. Alors nous savons bien que quand on attrape la grippe, ce n'est pas forcément notre faute. Donc si vous voulez, ce n'est pas de ça dont on parle finalement dans ce texte. Mais on parle plutôt, il y a là plutôt une promesse, si vous voulez, de pardon de nos fautes et puis de cette aide de Dieu pour réparer les conséquences de nos fautes. Voilà ce qui nous est promis ainsi, je crois, dans ce texte. Mais on peut aller encore un peu plus loin, je crois, car le livre du Deutéronome, quand il parle justement de ces conséquences de notre péché, il nous annonce que finalement la fièvre, c'est ce qu'attrape quelqu'un qui n'écoute pas Dieu. Alors, bien sûr, avec ce que nous savons maintenant de Dieu grâce à Jésus-Christ, on peut être certain que ce n'est pas Dieu qui nous envoie des maladies pour nous punir de nos fautes, bien sûr, pour punir les gens. Mais, même à l'époque du Deutéronome, si vous voulez, les gens n'étaient pas idiots. Et ils savaient très bien que la grippe, tout le monde l'attrape de temps en temps. Et que par conséquent, ceux qui sont hyper croyants, justes et généreux, ils attrapent la grippe, mais que ceux qui sont méchants, qui se moquent de Dieu, qui ne s'intéressent pas à Dieu, qui l'oublient, ils attrapent la grippe pareil. Et donc finalement, ce n'est pas si lié que ça dans la réalité de la maladie physique. Mais le Deutéronome, il parle d'une certaine fièvre finalement, de cette fièvre-là qui est une conséquence du fait de rejeter Dieu, d'oublier Dieu et de faire n'importe quoi. La fièvre qui menace celui qui rejette Dieu, nous dit Rashi, qui est un commentateur du Moyen-Âge, un commentateur juif du Moyen-Âge, donc de la Torah, de ce passage. Il nous dit que la fièvre qui menace celui qui rejette Dieu, c'est la folie du désir de possession, la folie de se prendre soi-même comme le centre de l'univers ou de croire que l'humanité pourrait s'en sortir toute seule. Eh bien, cette fièvre-là, elle est comme un feu intérieur qui donne soif de posséder toujours plus. Comme quelqu'un qui est brûlant de fièvre et dont, finalement, quand il boit de l'eau, sa soif n'est pas tellement calmée. Donc, une sorte de fièvre de possession compulsive. Eh bien, notre monde est un peu comme cette femme qui a la fièvre. Il y a une sorte de malaise ambiant, une sorte de malaise de vivre, une soif déraisonnable de toujours plus de possessions, toujours plus de loisirs, toujours plus de distractions, toujours plus de travail aussi parfois. Eh bien, ces choses ne sont pas mauvaises en soi. C'est bien de posséder quelque chose, c'est bien d'avoir des loisirs, des distractions même, c'est bien de travailler, bien sûr. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, puisque nous ne pouvons pas vivre sans cela, sans posséder, sans repos, sans nous réjouir de temps en temps, sans un peu de gourmandise, bien sûr, et il faut bien qu'il y ait du travail qui soit accompli pour que nous puissions vivre. Et Jésus lui-même, eh bien, il savait se reposer, il savait faire la fête avec des amis, comme nous le voyons dans cette histoire, en prenant un bon repas, mais sans une inspiration supérieure qui vient de Dieu seul. Nous sommes vite pris comme d'une fièvre que rien ne peut venir réguler. Alors il y a aussi ceux qui, à l'inverse, sont pris de la fièvre de prière, devenant des fous de Dieu, ou plutôt de leur propre idée de Dieu, idée souvent étroite, sûre d'elle-même, rejetant les autres conceptions de Dieu, celles des autres gens, comme si ce n'était pas bon. Et cette fièvre de la prière, fièvre de culte même, là encore, c'est en réalité être coupé de Dieu, car on s'est fait de sa seule conception de Dieu une idole qui n'est pas le Dieu vivant. Et donc, même ceux-là, ceux qui sont brûlants de cette fièvre-là, ils sont coupés de cette source jaillissante qu'est le Dieu de la vie. Alors quand ce genre de fièvre nous frappe, soit la fièvre athée, soit la fièvre finalement intégriste, eh bien ce n'est pas que Dieu nous aurait envoyé une maladie pour nous punir, bien entendu. Il veut notre santé, il ne demande pas mieux, et comme je vous le disais tout à l'heure, il s'approche de nous, il se rend proche de chacun pour nous guérir, nous ressusciter. Mais la fièvre, dans la réalité physique de notre corps, la fièvre, c'est le signe que quelque chose est un peu détraqué dans notre corps, qu'on a attrapé un virus ou je ne sais pas quoi. Eh bien, la fièvre, c'est un signal finalement qui devrait attirer notre attention que notre existence est coupée de la source de la vie et donc qu'il est urgent de voir et de saisir cette main qui nous est tendue par Dieu pour nous ressusciter aujourd'hui. Alors dans cette histoire, l'Évangile nous propose bien entendu de nous identifier à cette femme qui est trop souffrante pour tenir debout parce qu'elle a la fièvre. Et ce texte nous parle de ce que Dieu nous propose pour nous guérir et il nous appelle à ensuite faire de même, à notre mesure, en aidant les autres à guérir, en parlant de celui qui souffre à Dieu peut-être, comme le font les personnes qui sont dans la maison et qui vont parler de cette femme à Jésus, ou bien même comme Jésus pour aider quelqu'un à se lever, à ressusciter. Alors Jésus s'approche de cette femme sans une parole de condamnation. Il ne lui fait pas la leçon, il lui tend la main et la relève. Et cela suffit. Non seulement Dieu est source de bénédiction, mais ce passage nous affirme que Dieu est celui qui annule toute malédiction. Nous ne savons rien des causes de cette maladie de la femme, et c'est bien car nous avons tous finalement nos fautes, nos problèmes existentiels finalement qui nous coupent de la source de la vie, et donc c'est bien de rester dans un langage ainsi imagé. Mais de toute façon, quelle que soit la cause de notre fièvre brûlante, de toute façon, Dieu veut nous guérir, que cette fièvre soit due à une vie mal posée, à nos propres fautes, ou que cette fièvre soit due simplement à notre faiblesse de notre nature, sans que ce soit notre faute, ou que ce soit dû à la faute de quelqu'un d'autre qui nous a blessés, qui nous a infectés. En Christ, nous voyons que de toute façon, Dieu a le projet de nous guérir de nos mauvaises fièvres et de nous remettre sur pied. Alors reprenons donc ce récit au sens figuré quelques instants, comme nous parlant du Christ qui nous ressuscite, ou de la présence active de Dieu qui vient dans notre existence pour nous faire passer à la vie. En sortant de la synagogue, nous dit ce court récit, Jésus se rendit à la maison. Et donc oui, la lecture de la Bible et le culte ne sont pas un but en soi, mais il arrive qu'à travers ces exercices, finalement, sortant de là, nous puissions recevoir la visite de Jésus dans notre existence. Et il se peut aussi que nous-mêmes, sortant du culte, nous soyons un peu plus habités par la grâce de Dieu et un peu plus prêts à être nous-mêmes source de résurrection et de vie pour une personne. Personne dont nous n'avons pas encore entendu parler maintenant, mais que nous allons croiser dans quelques minutes ou dans quelques jours. La belle-mère de Simon était donc couchée, ayant la fièvre, et aussitôt, ils parlèrent d'elle à Jésus. Alors, ils ne demandent rien à Jésus, ils ne lui disent pas « Tiens, va nous guérir la belle-mère ». Non, ils parlent simplement de cette femme à Jésus, et c'est un exemple pour notre prière. Nous pouvons prier Dieu et lui parler de nous-mêmes, parler à Dieu de nous. Nous pouvons parler aussi à Dieu de nos proches. Nous pouvons lui parler de leur souffrance, de leur fièvre, de ce qui les fait brûler. Mais il est bien, comme nous le propose ce texte, de laisser à Dieu l'initiative de ce qu'il peut faire, de ce qu'il veut faire dans les circonstances. Chacun de nous a une part de faiblesse et de souffrance. Alors c'est souvent en fait assez gérable par nos propres forces, heureusement. Parfois, nous avons le besoin d'aide des uns et des autres, d'une aide fraternelle, comme dans cette histoire. Et parfois, nous avons même besoin d'un miracle pour nous en sortir, comme ici. Eh bien, voilà, ces différents niveaux de besoin, d'aide, d'autonomie, cela nous permet, je crois, de mesurer la gravité et de savoir compter sur nos propres forces, sur l'aide des autres, et sur ce miracle qui peut venir que de Dieu seul. Notre monde a aussi sa part de faiblesse et de souffrance, je vous le disais tout à l'heure, et je crois que ça n'a échappé par personne en ce moment. Notre monde connaît aujourd'hui une poussée de fièvre assez dure. À mon avis, nous sommes dans le cas de la fièvre par manque de foi, par manque de vie spirituelle, par trop plein d'orgueil, par trop de confiance en la seule humanité. Eh bien, c'est en grande partie à l'origine de l'état du monde, je crois, et de cette fièvre que nous voyons aujourd'hui. Eh bien, nous pouvons parler de notre monde à Dieu. Nous pouvons lui parler de telle ou telle personne. Nous pouvons lui parler de nous-mêmes. Et nous pouvons aussi faire preuve de cette solidarité qui est de tendre la main pour tenter de ressusciter par cette force que Dieu nous donne, par son esprit. Mais nous pouvons toujours au moins faire cela, penser à ceux qui ont la fièvre, y penser dans la prière, y penser dans la main tendue. Mais attention, l'exaucement de la prière que nous pouvons avoir devant Dieu, elle risque bien de nous engager, parce que Dieu risque de nous proposer d'être justement cette main du Christ qui doit être tendue à telle personne pour laquelle nous avons eu, je dirais, l'imprudence de prier. Alors s'étant approché, Jésus fait lever la femme en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle se mit à les servir. Alors effectivement, de loin, il est difficile d'aider quelqu'un. Dieu se fait proche, il s'approche, et il nous apprend à nous approcher, à tendre la main à notre frère, à notre sœur. Jésus lève la femme, littéralement, je vous l'ai dit, il la ressuscite. Ce n'est pas un simple petit coup de main extérieur, si vous voulez, comme une impulsion qu'on donne pour lever quelqu'un, mais il la rend autonome et vivante, si vous voulez. C'est une vie qui vient à l'intérieur d'elle-même et qui la rend capable d'agir et de créer, capable aussi d'être heureuse, capable d'aimer au point, eh bien, de se mettre à servir spontanément, parce que tout d'un coup, c'est quelque chose qui la rend joyeuse, d'aller donner un coup de main. La femme se porte mieux et elle se met à les servir, Jésus et tous les autres. Elle n'y est absolument pas obligée. Alors ce n'est pas du tout dans le style de Jésus d'obliger les gens à servir, à donner un coup de main. Au contraire, Jésus manifeste la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'il donne la vie, il guérit, il augmente notre vie, mais nous ne devons rien à Dieu pour autant. Si Dieu nous donne la vie, si le Christ vient auprès de quelqu'un pour l'aider, pour le guérir, c'est que c'est dans la nature de Dieu de donner la vie. C'est parce qu'il trouve que c'est une bonne idée, parce qu'il est heureux, si je puis dire, il est heureux de nous voir en meilleure forme et plus heureux, donc finalement Dieu est déjà payé par le bonheur qu'il a à faire vivre les gens, à les aider, à les sauver. Nous ne devons donc rien à Dieu. Nous sommes dans une logique de la grâce. Si la femme donne un coup de main ensuite, eh bien c'est qu'elle a envie. Ce n'est pas pour payer Jésus en retour, mais c'est un cadeau qu'elle offre à son tour, par gratitude, oui, par joie, mais peut-être simplement parce qu'elle a été touchée par Jésus et que maintenant son cœur a été rendu plus vivant, et qu'elle a envie de rendre les autres un peu plus heureux aussi, et que maintenant, c'est comme ça qu'elle a envie de vivre. Et donc finalement, la grâce, est-ce qu'elle ne serait pas un peu contagieuse également comme la grippe ? Alors c'est vrai que la grâce se communique ainsi, comme la joie finalement. Mais il est possible de résister à la grâce. Ce n'est pas du tout obligatoire, comme quand on est en contact avec quelqu'un qui a la grippe ou la peste, eh bien, hop, on attrape forcément la grippe ou la peste. Non, la grâce est un peu contagieuse, mais on peut résister à la grâce ou on peut s'en saisir, comme une main qui se tend vers nous pour nous tirer de la fièvre. Et la grâce, elle donne soif également, mais une bonne soif, celle de se réjouir du bien, et celle d'embellir la vie. Que Dieu nous donne ainsi la vie aujourd'hui, qu'il donne la vie à ceux que nous aimons et qu'il donne la vie à ce monde qui en a tant besoin. Amen.